Bonsoir, rebonsoir. Donc pour commencer, voici le topo biblique dans le cadre de cette septième soirée dédiée à l'Église et à la fraternité. Pour ce qui est du titre complet que l'on peut voir dans nos livrets, l'Église, la communauté évangélisatrice, la fraternité. Alors pour introduire, il est important de rappeler qu'un témoin n'est jamais seul, chose importante, la preuve ce soir. Et notre salut est en Église, en l'espèce, on parle bien du corps du Christ. Témoigner, c'est donc avoir conscience du message à faire passer, mais aussi de conduire les autres membres de ce corps, d'où la notion d'église, mais aussi d'introduire ce que nous rencontrons, d'où la notion de fraternité, et d'accueillir dans la joie, d'où la notion de communauté évangélisatrice. Alors maintenant que l'on sait que nous avons tous à témoigner, dans l'amour et dans l'unité, à nous de réfléchir comment être un bon témoin. Dans ce topo, donc, nous nous appuierons notamment sur le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, lu ce soir, ainsi que d'autres épîtres, notamment Jean et Matthieu, et des écrits de Mère Teresa. Donc, pour tenter d'aborder ce thème qu'est la fraternité, je vous propose un plan en trois parties. 1. Le Christ comme modèle. 2. La notion de fraternité et de frère. Et 3. Le pouvoir de l'amour. Alors, le Christ comme modèle. Dans l'Épître, lu ce soir, saint Paul exhorte les chrétiens à être fraternels entre eux, déjà. Il promeut la communion au sein de l'Église. Regardons un petit peu dans le détail ce qui est dit. Au verset 1, on sait qu'on se réconforte facilement, on s'encourage facilement, on fait facilement preuve d'amour dans le Christ. Pour preuve, le moment de la paix du Christ à la messe, par exemple. Mais la difficulté est bien dans nos relations entre nous, entre humains. Il nous est de suite plus difficile d'avoir le même comportement au quotidien. Alors, si nous allons au verset 2, le Christ demande pourtant que cet amour soit mis au quotidien dans nos relations. Et on y aborde juste après, dans les versets 3, 4 et 5, la question du pourquoi. Et la réponse est l'unité. Comment ? On le voit dans le verset 5. En se comportant entre nous comme on le fait quand on connaît le Christ. Cela veut tout simplement dire qu'il faut prendre le Christ comme modèle, et aussi ainsi en adoptant les dispositions du Christ dans nos attitudes intérieures et nos relations extérieures, tout en restant humble, tout en ne se considérant pas supérieur à autrui. Et on en vient du coup au verset 6, 7 et 8 sur l'humilité du Christ. Dans ces versets, il y est décrit l'abaissement du Christ. Il est bien rappelé que le Christ avait pourtant la condition divine, mais qu'il y a renoncé de lui-même. Il est devenu homme parmi les hommes, a été reconnu comme homme. Dans le verset 6, il a choisi de vivre dans l'humilité lui-même. Lui-même. Dans le verset 7, il s'est montré obéissant, prenant la condition de serviteur. Et ce, jusque dans la mort, comme il est dit dans le verset 8, pour nous sauver. Ce qui nous amène brutalement à la grandeur du Christ juste après, puisque brutalement on passe à l'exaltation par le Père, à l'abaissement extrême. Le Père y répond par une exaltation suprême. Il s'agit de la réponse d'amour du Père au don que le Fils a fait de lui-même. Ce que l'on voit dans le verset 9, il y est dit que cette exaltation faite par Dieu a élevé le Christ à la plus haute place. Et dans le verset 11, il y est rajouté que cette exaltation conduit également à ce que tout se proclame à la gloire de Dieu le Père, Jésus est le Seigneur. Mais pourquoi ? Dans Luc 14:11, il est dit « Quiconque s'élève lui-même sera abaissé par Dieu, et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé par Dieu. » Et le Christ lui-même a fait cela, et ce malgré sa condition divine. Pour résumer cette première partie, on voit donc en y lisant de plus près, dans les versets 6 à 11, on passe de l'abaissement du Christ, qui démarre donc par la kénose du Christ, petite parenthèse, la définition de cette kénose se trouve au verset 6 et 7, qui signifie le dépouillement du Christ dans son humanité, son abandon, l'abandon de ses attributs divins, pour vivre la condition ordinaire des hommes, tout en demeurant divin. Donc on passe de cet abaissement du Christ à son exaltation par le Père. Mais pourquoi ? Ce qui nous amène à partie 2, la notion de fraternité et de frère. Alors pourquoi ? Pour briller. Dans le verset 15, il est dit « Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel. » Eux, il s'agit des gens faux et mauvais de ce monde, afin de leur présenter le message de vie en attendant le retour du Christ. D'ailleurs, Paul exhorte les Philippiens à rester fermes dans la foi, à ne pas se laisser séduire par de fausses doctrines et surtout à ne pas oublier l'objectif premier de la vie de tout chrétien, devenir semblable à Jésus-Christ. Alors comment faire ? Paul donne quelques conseils dans la suite, au verset 13 notamment, il est dit que Dieu agit parmi nous et qu'il nous rend capables de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Juste avant, dans le verset 12, Paul rajoute qu'il faut continuer de faire cela même en l'absence de guide humain, en tant qu'enfant de Dieu. Alors comment faire donc ? On en vient au comment au sens organisation, et c'est là qu'arrive en effet la notion de fraternité, grâce à l'unité de ces fraternités, qui reposent toutes sur des points communs entre chaque membre qui la compose, c'est-à-dire le Christ comme modèle, l'objectif de devenir semblable au Christ, dans l'humilité, etc. etc. Donc qui dit fraternité dit frère. Le frère est celui que l'on n'a pas choisi, mais qui est malgré tout proche et qu'on ne peut ni éviter ni renier. Mais avoir un frère entraîne forcément pour nous, humains, des comparaisons d'âge, de compétences, de préférences, etc. Cela se constate très rapidement dès le quatrième chapitre de la Genèse avec Caïn et Abel, où cela se terminera par un meurtre. Et ce n'est qu'après ce meurtre que Caïn verra l'importance qu'avait son frère pour lui. Dans l'Ancien Testament, cette situation s'est représentée à plusieurs reprises, avec Ésaü et Jacob, plus tard dans la Genèse, au chapitre 25 à 33. Mais on y assiste déjà à une démonstration d'une alternative à cette violence, la réconciliation. Cela n'est pas encore suffisant, mais c'est un premier pas important vers l'amour et la proximité requises pour ces fraternités. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, enfin, Jésus oppose la réconciliation à la violence, le pardon à la vengeance. On peut le voir par exemple dans Matthieu 7. « Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil ?» Donc pour conclure cette partie 2, les chrétiens sont invités à vivre cette nouvelle qualité de relation entre eux qui est de l'ordre de la fraternité et en s'appuyant sur l'exigence chrétienne qui est renoncer à toute mauvaise comparaison, échapper à toute forme de jalousie, de mépris, d'envie ou de jugement de ses frères, pour plutôt se réconcilier avec eux, comme on le lit dans les Éphésiens 5, 21, « Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. » Et cela revient à écouter son prochain, dans une société aujourd'hui individualiste. Cela revient à l'accompagner de façon sincère, en le considérant et en se mettant au même niveau, et ne pas le faire par convention sociale, ou pour faire bien, pour faire comme les autres, ou parce qu'il faut le faire, ou par sentiment de supériorité. Cela nous amène à la troisième et dernière partie, le pouvoir de l'amour. Alors comment faire pour toucher tout le monde ? Ben, l'amour et la proximité sont les clés. Pour toucher tout le monde, du plus pauvre au plus riche, quand on parle de portefeuille ou de cœur, afin que le message du Christ soit entendu par tous au-delà des fraternités, il faut faire preuve donc de cette chose si simple et si forte et complexe à la fois qu'est l'amour. Car tout le monde a besoin d'amour. Et comme l'a dit Mère Teresa, l'amour commence à la maison et en famille, car il est toujours facile de prétendre aimer quelqu'un qui est loin, que l'on ne connaît pas forcément, dans le cadre ou non de grands projets personnels, mais il est toujours plus difficile d'aimer la personne qui est proche de soi. Pourquoi ? Car pour qu'un vrai amour surgisse, il faut se rapprocher de la personne à aimer. Et pourtant, tous les humains ont besoin d'amour, d'aimer et de savoir qu'ils sont aimés. Sans cela, leur cœur sera trop fermé pour entendre clairement un message capital, que Dieu les aime aussi, et qu'ils ont une valeur inestimable à ses yeux. Comme Jésus a dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », avant de rajouter, « Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » On rappelle ici l'humilité et le fait que le Christ est partout et qu'il est pour tout le monde. Alors, les communautés de proximité, la fraternité, concrètement, nourries de l'enseignement, attachées à nos pasteurs, dans l'unité, ces communautés à taille humaine sont les plus efficaces, si on peut utiliser ce terme. Petite communauté à grand rayonnement, avec des liens d'amour et d'amitié, d'épanouissement et de rencontres, pour vivre intensément la vie de l'Église. Mais je m'arrêterai là, car ce point relève plutôt de l'enseignement de l'Église, justement. Pour clôturer cette troisième partie, on peut dire que l'amour et l'amitié sont les liens. Le Christ le dira en Jean 15, 15. « Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » À nous aussi d'avoir ce lien d'amitié et d'amour avec nos semblables et avec Dieu. Donc pour conclure, nous pouvons dire que les relations fraternelles sont aussi naturelles que difficiles et que seule notre paternité divine et notre fraternité avec le Christ, qui nous lie les uns aux autres, nous permettent de donner, de vivre une fraternité apaisée. Il faut rappeler qu'un témoin n'est jamais seul, que notre salut est en Église, dans le corps du Christ, et que témoigner, c'est donc avoir conscience du message à faire passer, mais aussi de conduire les autres membres de ce corps et introduire ce que nous rencontrons et d'accueillir dans la joie. Nous pouvons ainsi dire qu'après les actes personnels, conversion, lecture, puis après les témoignages, les fraternités permettent de passer un nouveau cap dans cette démarche de missionnaire.